Donc nous pouvons recommencer notre après-midi avec, je voudrais parler donc de deux autres aspects du sentier octuple. Et ces deux-là, cet après-midi, sont plus au début de la liste. Et donc c'est la vision juste et l'intention, la pensée appropriée. Et donc la vision juste, la définition est quand nous comprenons que la matière, les sentiments, les perceptions, les aptitudes mentales sont impermanents, nous aurons obtenu la vision juste. Donc, qu'est-ce qui est dit ici ? Que nous comprenons que la matière, les sensations ou sentiments, les perceptions, les habitudes mentales sont impermanents. Alors, à un certain niveau, nous savons que les choses sont impermanentes. Que les choses soient impermanentes, ça veut dire que les choses changent. Et donc, à un certain niveau, nous savons que les choses changent. Mais ici, quand il parle de compréhension, il parle d'une compréhension qui est en fait organique et qui va vraiment faire une différence envers l'attitude, la manière que l'on a d'être avec les choses. Et donc, la matière, il veut dire le corps, les choses dans l'environnement, les sensations, les sentiment, un peu le ressenti, ce que l'on ressent. Après, il parle des habitudes mentales. Donc, il est en train de parler de notre existence. Notre existence, notre organisme, pour fonctionner, est composé de différents éléments. Éléments corporels, éléments matériels, éléments plus mentaux, éléments plus émotionnels. Et donc il dit, si vous voulez vraiment avoir la vision juste, pratiquer la vision juste, cultiver la vision juste, vous avez besoin de voir que toutes ces choses-là qui vous composent, dont vous faites l'expérience, sont impermanentes. Qu'elles changent. Et en fait, on pourrait dire que cette vision juste est totalement reliée à un autre aspect de la méditation qui est l'exploration, la vision profonde. Et quand je parlais ce matin de l'ancrage approprié, donc c'est samadhi, et c'est totalement relié aussi à ce que l'on fait dans la méditation en termes de samatha, qui est de s'ancrer. Et là, ici, de la même manière, avec la vision juste, et aussi, on pourrait l'associer avec ce qu'on appelle la vision profonde, vipassana. Et c'est vraiment d'explorer, on pourrait dire, au niveau micro, ou on pourrait dire peut-être en termes de photographie, au niveau macro. Donc, on essaie d'être au plus près de l'expérience. On essaie d'être au plus près de ce qui se passe et de vraiment comprendre et faire l'expérience que les choses changent. Et pourquoi est-ce important? Pourquoi est-ce que ça ferait partie de la vision juste et ça fait partie du sentier octuple? Quelle est l'importance par rapport à notre vie au quotidien, du fait qu'on sache vraiment, on comprenne vraiment, on le ressente vraiment, que les choses changent? Ben en fait, c'est un petit peu comme une antidote. Parce qu'en fait, je pense que c'est dû à notre évolution à travers les siècles et tout ça, et la survie de l'espèce. On a une très forte capacité à généraliser. On a une très forte capacité à dire les choses sont comme ça. Les choses sont toujours comme ça. Et donc, cette capacité de généraliser, qui est une fonction qui est très utile, va en fait nous fixer, va aussi nous faire fixer les conditions, fixer ce qui arrive. Et comme l'idée du Bouddha, c'était vraiment d'essayer de nous aider par rapport à notre relation avec la souffrance, un des points ici, c'est que le fait de ne pas faire l'expérience de l'impermanence, de ne pas le voir, de ne pas le comprendre, en fait, va générer plus de souffrance. Et non seulement ça, va nous empêcher d'être créatifs. Et donc, cette vision juste, je pourrais presque dire que c'est une vision créative. C'est une vision qui nous aide à vraiment être avec ce qui se passe, mais à un niveau très organique, très corporel, très dans l'expérience. Et pas seulement dans l'abstrait. Parce que souvent, on pourrait presque dire, on se fait des films. Des films de soi-même, des films des autres. Et dans ces films, dans un sens, on se fixe soi-même, on fixe les autres. Et donc l'idée de cette impermanence, c'est de regarder dans l'instant, pendant la méditation, mais dans la vie quotidienne, on peut aussi remarquer à une plus longue échelle, le changement. D'abord le changement de la matière, le changement des choses. Ah, mais là, nous, on vient une fois, enfin moi je viens une fois par année à Paris pour enseigner, et de temps en temps je suis à la cité universitaire. Et jusqu'à maintenant, on était toujours à la Maison de l'Inde. Là, on est à la Maison du Liban, donc on est de l'autre côté. La Maison de l'Inde est là-bas, Nama, on est de l'autre côté. Et là, c'est la découverte. Il y a une maison de la Corée, mais qui n'était pas là il y a 2 ans, ça c'est sûr. Et je m'aperçois qu'ils l'ont juste construite. Alors là, c'est un grand changement de la matière. Avant, il n'y avait rien, maintenant, pouf, il y a ce grand bâtiment. Mais c'est intéressant, ça, ces changements autour de nous. Enfin, les changements de ce qui se passe autour de nous. Il y a des changements constamment. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a ces changements? Ça, c'est intéressant aussi. On se dit, ah non, ça doit rester comme tel. Ça ne doit pas changer. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est le fait que nous, de nos jours, on aime les vieilles choses. Mais avant, dans les anciens temps, quand il y avait les vieilles choses, les gens aimaient les choses modernes. C'est intéressant le changement, comment on le perçoit à chaque moment. Hier, j'étais voir l'exposition de Vasarely à Beaubourg. Et c'était fascinant parce que de 60 à 70, il était hit. C'était le gars le plus connu. Il avait influencé tout. Il était partout. Et on a pu avoir l'impression à ce moment-là, surtout si vous n'aimiez pas Vasarely, que ça allait jamais s'arrêter. Que ça allait continuer pour tout le temps. Il y aurait du Vasarely partout, tout le temps. Il y en a eu pendant 10 ans, et puis tout à coup, pouf, ça s'est arrêté, ça a été remplacé par autre chose. Mais c'est intéressant de voir que comme quand on est dedans, on a l'impression que ça va être là pour toujours. Et puis si on regarde, surtout si on regarde avec l'histoire, ah, il y a des changements constamment. Mais nous, quand on est dedans, c'est difficile souvent à voir le changement. Et donc un peu c'est ça que le Bouddha nous invite à voir le changement, par exemple, de la matière. Le changement de la matière extérieure ou le changement de la matière intérieure, du corps, de ce qui se passe en nous-mêmes. Matière extérieure, on pourrait aussi, de là on peut aussi, mais ce n'est pas le sujet de ce que je veux parler, l'écologie, on peut voir dans un sens les effets, l'écologie, ce qui passe avec la nature, avec le monde, les effets qu'on a, les effets que les systèmes ont, et qu'est-ce qui se passe avec cette impermanence, parce que ça joue à différents niveaux. À certains niveaux, ça n'a pas l'air d'avoir d'effet, puis à un autre niveau, c'est un autre effet. Mais ici, on va peut-être juste pour maintenant, pour cet après-midi, juste regarder à notre niveau personnel. Le changement à notre niveau personnel et le changement de la matière à notre niveau personnel, c'est les sensations. Et aussi ce que nous, on voit, ce que nous, on observe. Et ça, on pourra le faire pendant qu'on marche. C'est intéressant de voir qu'on marche, on voit il y a la lumière, il y a le vent, il y a le soleil, comment ça change. Après, il y a nous-mêmes, il y a nos sensations. Quand on est assis en méditation, on peut aussi observer ça. Quand on est assis en méditation, alors dans l'après-midi, il y aura une méditation qui sera de 45 minutes. Alors là, peut-être, il y aura plus de changements ou pas. Je ne sais pas. À vous de voir. Pour cette méditation un peu plus longue, vous pouvez toujours vous asseoir sur une chaise. Si d'être assis par terre, c'est un peu difficile. Mais c'est intéressant quand on est assis en méditation et qu'on a une sensation. Qu'est-ce qu'on fait avec cette sensation? Souvent, on a une sensation, et surtout si elle est désagréable, on se dit « Ah, elle va durer tout le temps, ça va être horrible. » Ou si on a une sensation agréable, et on veut que ça continue, bien sûr. Donc, la permanence joue différemment. Si c'est désagréable, la permanence, l'impression de permanence va nous attirer un petit peu de souffrance. Et puis si on a une sensation agréable, le désir de permanence va aboutir à un peu de souffrance quand ça va passer. Parce que comme toute chose, ça passe. Et après, ce qui sera intéressant avec ce qui est déplaisant, c'est qu'on sera surpris que ça soit passé. Et donc, l'idée, c'est un peu, avec cette vision juste, on pourrait presque apporter cette question qui, je trouve, pourrait être très utile dans la vie quotidienne. C'est que quand on ressent quelque chose, quand on a une sensation, ou même quand on a une pensée, combien de temps cela va-t-il durer si je ne fais rien avec? Il y a un petit proviso. Si je ne fais rien avec. Parce que nous, généralement, on fait quelque chose avec. Et souvent, ce qu'on fait avec a une tendance à l'exagérer, à l'amplifier. Et donc, cette vision juste va nous aider à être d'abord plus avec ce qui se passe comme ça se passe, dans le sens que ça apparaît, ça dure un petit moment, et puis ça disparaît. Et donc, dans un sens, on pourrait dire que dans toute chose qui arrive, il peut y avoir deux sortes de changements. Changement dans le sens que ça arrive et ça disparaît. Ou s'il y a quelque chose qui continue pendant un moment, on peut aller à l'intérieur de ça et on peut voir que ça change en soi-même. Que généralement, ce n'est pas exactement la même chose. Et donc, un peu cette vision juste, c'est pour nous aider à moins nous fixer, à moins fixer les choses, à moins fixer les autres, de telle manière que la matière, dans un sens, devient plus vivante et qu'on peut être plus créatif par rapport à ce qui se passe ici et maintenant. Parce qu'autrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire beaucoup de nouveaux points, parce qu'on généralise pas mal, on va associer. Ce que je ressens ici et maintenant, c'est totalement comme ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et ça va toujours être comme ça. Donc souvent, il peut y avoir un mouvement de « je ressens quelque chose ». C'était comme ça avant et ça va être comme ça après. Et donc, c'est presque comme si on figeait l'expérience au lieu d'aller un peu dans une, peut-être une certaine exploration. Comment ça va être ici et maintenant, dans ces conditions? Est-ce que c'est exactement le même ou pas? Et aussi par rapport quand il dit, voyez l'impermanence du ressenti. Voyez l'impermanence des sensations. Voyez l'impermanence des pensées. Et je pense que c'est un peu pour nous aider à trouver un peu de liberté. Et de, au lieu de se dire c'est toujours comme ça, on tourne l'objectif et on se dit mais quand est-ce que c'est comme ça? Parce que si c'est toujours comme ça, on ne va pas explorer quoi que ce soit et on va être surtout dans le subi. On va subir quelque chose. Mais si on est dans quand est-ce que c'est comme ça, étant donné que ceci est impermanent, étant donné que ceci m'arrive de temps en temps, mais pas tout le temps, quelles sont les conditions qui le font apparaître? Et à ce moment-là, on pourra avoir un peu de créativité par rapport aux conditions ici et maintenant. Pas les conditions dans le passé, pas les conditions dans le futur, mais qu'est-ce qui se passe ici et maintenant? Et alors là, on va pouvoir voir qu'il y a, je dirais, trois sortes d'impermanence, en fait, aussi. Il y a ce que j'appellerais l'impermanence légère. Le fait que une pensée, une sensation, un ressenti, et on pourrait presque dire vraiment impermanent, dans le sens que c'est très léger, et donc, pouf, ça apparaît et ça disparaît. Et par exemple, cet après-midi, on peut faire l'écoute des sons, et avec l'écoute des sons, on peut vraiment voir qu'il y a des sons qui apparaissent et qui disparaissent, apparaissent, disparaissent. Comme ça, alors tout à coup, il y aura un oiseau qui chante, et puis pof, c'est tout. Une voiture qui passe, pof. Et donc ça va être très 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 ponctuel. Ça va être juste comme ça. Et généralement, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est juste un élément qui rencontre un autre élément. Et voilà. Et donc ça va être léger. Et généralement, avec ça, on n'a pas grand-chose à faire avec cet impermanent. On peut juste, ah, c'est monté. C'est déjà reparti. Avant même presque que j'en sois conscient, hop, c'est déjà reparti. J'ai pas grand-chose à faire avec. Après, il y a l'autre niveau qui va être ce que j'appellerais plus répétitif. Et donc, on va avoir certains ressentis, certaines sensations, certaines pensées. Et, ah, ça a l'air, c'est semblable à quelque chose de similaire dont j'ai déjà fait l'expérience. Donc ça nous rappelle quelque chose. Ça a le même goût que quelque chose. Un peu la même forme, un peu la même sensation, un peu le même ressenti. Et surtout, parce qu'on regarde bien sûr, comme j'ai déjà mentionné, différemment l'impermanence de quelque chose de désagréable que l'impermanence de quelque chose agréable. Donc, c'est surtout avec l'impermanence de quelque chose qui est désagréable qui va nous donner l'impression que ça arrive tout le temps. Avec l'impermanence de l'agréable, on va se dire que ça ne nous arrive pas assez. Mais avec ce qui est désagréable, on va plus avoir cette sensation, c'est toujours comme ça. Ça ne s'arrête jamais. Et donc ici, vraiment, cette vision juste, c'est pour nous aider à voir que ce n'est pas toujours comme ça. Et donc de commencer à nous intéresser à quelles sont les conditions qui font que cela apparaît. Ça apparaît, ça dure un petit moment, ça disparaît. Et puis peut-être un mois après, hop, ça apparaît, un petit moment, ça disparaît. Un an plus tard, peut-être, ça apparaît, ça disparaît. Donc, c'est en fait d'essayer de voir qu'on n'est pas toujours comme ci, comme ça. Et donc, de s'intéresser quelles sont les conditions. Et donc là, on commence plus avec, c'est ça qui est intéressant avec la vision juste, c'est qu'on va plus partir dans une exploration expérientielle de voir, mais qu'est-ce qui se passe? Dans le sens que, qu'est-ce qui se passe en moi? De quoi je fais l'expérience ici et maintenant, et aussi qu'est-ce qui se passe extérieurement. Est-ce qu'il y a un élément extérieur qui ferait que, qui provoquerait quelque chose, ou est-ce qu'il y a quelque chose intérieur qui se passe? Et donc de voir que cette vision juste, C'est vraiment une exploration, mais autant intérieure qu'extérieure. Pas juste intérieure, c'est aussi extérieure. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je rencontre? Qu'est-ce qui m'arrive dans un sens? Et après, il y a le troisième niveau, on pourrait dire, d'impermanence, qui est le niveau où la chose est tellement intense que c'est difficile de percevoir que ça peut changer. Et là, je trouve que c'est à ce niveau-là, c'est très difficile, mais c'est très utile, cette vision juste. Parce que ça peut vraiment, on pourrait presque dire que la vision juste va nous rassurer, va nous donner confiance dans le sens que oui, c'est intense, oui, c'est difficile, et oui, ça n'a pas l'air de s'arrêter. Soit on a des pensées obsessionnelles, soit on a un ressenti qui a l'air de vraiment continuer, soit on a des sensations qui ont l'air de continuer. Et donc, à cause de l'intensité, on ne va pas pouvoir voir autre chose. On va pas pouvoir. C'est presque comme si on était enfermé dans une chambre noire et qu'il n'y ait pas de lucarne. Et qu'on se dise, je suis dans le noir, je suis toujours dans le noir, et je ne vais jamais sortir du noir. Et la vision juste, c'est comme si une lucarne apparaissait dans le noir et qu'ils nous disent, ah mais non, dehors, il y a la lumière. Et il doit y avoir un moyen d'aller dehors. À un moment donné, la lumière apparaîtra ou le noir disparaîtra. Et donc, la vision juste nous aide à voir que oui, ici et maintenant, c'est intense. De par l'intensité, je ne peux pas voir autre chose. Mais si je ne fais rien avec cette intensité, elle aussi va passer. Et ça, c'est ce que la vision juste va nous aider. On va essayer dans un sens de muscler la vision juste en pratiquant, en faisant cette exploration avec le vipassana, avec le regarder, ce regard profond, être avec le changement, mais au niveau de quand on assis en méditation, quand on marche, pour vraiment, c'est presque comme une piqûre de rappel. La méditation par rapport à ça, c'est vraiment une piqûre de rappel de se dire oui, les choses changent, oui, ça change. Ça ne change pas tout le temps de la même manière, mais ça change. Et donc, avec ce niveau où c'est intense, là, ce qui peut être intéressant avec la méditation, l'ancrage, et la pleine conscience bienveillante, c'est de nous aider à revenir l'espace de quelques secondes à la respiration, au corps, au son, de sorte qu'on est moins pris dans l'intensité de ce qui se passe. Et on peut faire une expérience un petit peu libérée, on peut dire. Libératrice de quelques secondes, on est avec la respiration. Quelques secondes, on est avec le corps. Mais vraiment, ici et maintenant. Et ça nous donne une petite ouverture. Et donc, dans ce sens-là, la vision juste va nous aider à ne pas amplifier cette intensité qui est déjà pas mal amplifiée de par ce qui s'est passé. Et il faut voir qu'à ce niveau-là, c'est généralement quand quelque chose se passe qui est surprenant, qui est accidentel, etc., etc., dont on avait peur ou quoi que ce soit. C'est que quelque chose s'est passé, donc c'est pas que rien ne s'est passé, quelque chose s'est passé. On a une réponse intense parce que c'est normal, c'est la fonction de l'organisme de répondre de cette manière. Si on a perdu quelque chose, perdu quelqu'un, si on a un choc émotionnel ou quoi que ce soit, c'est... Et il faut que ça passe. Et ça va passer. Mais ça, bien sûr, on va mettre plus de temps à passer parce que c'est choquant. Il faut vraiment voir. C'est pour ça que je pense que les trois niveaux, la vision juste va nous aider à voir qu'il y a différentes sortes de changements. Et donc, on va aussi explorer dans un sens le changement. L'apparition, la disparition, ou quand quelque chose, en fait, change. Et l'autre partie du chemin octuple dont je voulais parler, c'est l'intention juste. Alors souvent, ça s'est traduit soit par pensée ou intention juste, ou moi je dirais pensée, intention bienveillante. Parce que vraiment, je pense que c'est le sens de la définition. Parce que la définition, c'est la pensée, l'intention juste, et la pensée, l'intention qui est caractérisée par le renoncement, la non-malveillance, et qui est inoffensive. Donc vraiment, ici, on est en train de regarder l'intention. Quand j'ai une pensée, ou quand j'ai une direction, ou quand je vais me mouvoir vers quelque chose, quel est le socle de ça? Qu'est-ce que c'est qui va me faire agir? Qu'est-ce que c'est qui va me faire partir dans ce sens ou dans l'autre? Est-ce que ça va être une impulsion d'acquisition, de convoitise, une impulsion d'agression, une impulsion de malveillance, je vais les avoir, je veux tout pour moi? Ou est-ce que ça va être une impulsion, une direction qui va aller vers plutôt un renoncement, la non-malveillance, la non-agressivité? Et donc, ici, on voit un peu un des points très importants, essentiels du sentier octuple. Ça, c'est vraiment la base. Je pense que c'est vraiment aussi de voir que c'est la base de toute la méditation en termes de méditation bouddhiste, qui est quand même une idée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le renoncement ? De renoncer à quelque chose soit basé sur le renoncement. Dans un sens, on pourrait presque dire que c'est la non-acquisition. Les autres définitions, c'est la non-malveillance, la non-agression. Là, on pourrait dire que c'est la non-acquisition, la non-convoitise. Et c'est intéressant, ce renoncement. De nos jours, le renoncement, généralement, est très mal vu, parce qu'il faut qu'on consomme, parce qu'il faut que les gens aient du travail. Moi, c'est toujours, je pense que c'est toujours un peu le problème, on pourrait dire, de ce qui se passe dans nos sociétés économiquement, c'est qu'il faut qu'on consomme pour que l'économie marche. Puis si on ne consomme pas, ça va être dur. Et ça va être notre faute qu'on ne consomme pas. J'aime bien ça. Mais là, dans le renoncement, moi, je pense qu'il y a deux idées qui est intéressante de regarder. C'est, est-ce que je me force à renoncer quelque chose? Et que quand je pense à ça, je pense toujours aux bonnes résolutions de Nouvel An. Je ne vais pas boire, je ne vais pas fumer, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça, qui généralement ne marche pas, ou très peu. C'est intéressant de se forcer à quelque chose. Alors bien sûr, des fois, il est essentiel, il est vital de renoncer à quelque chose. Notre vie peut en dépendre. Si vous avez quelqu'un d'alcoolique et qui souffre beaucoup par rapport à ça, que sa famille souffre aussi beaucoup par rapport à ça, de renoncer, la personne va devoir se forcer à renoncer et trouver un moyen de se forcer à renoncer ça. Alors ça ne va pas nécessairement être facile. Et donc, il y a un renoncement qui, des fois, est important, de renoncer à quelque chose pour nous faire du bien dans le sens. Mais aussi, je pense qu'il y a un renoncement qui vient parce que on n'en a pas envie. Et donc, il y a un renoncement parce que j'en ai pas besoin. Et là, je pense qu'on peut faire une différence entre le besoin et le désir, ou le besoin et la convoitise, ou l'acquisition. Besoin, on a des besoins, tout le monde a des besoins. On a besoin de manger, besoin de respirer, besoin de boire, besoin d'avoir des habits, besoin d'avoir une maison, etc., etc. Donc, on a certains besoins pour survivre. Et en même temps, ces besoins peuvent devenir des désirs. Et le Bouddha avait cette... En parlant de renoncement, si on le mettait d'un côté plus positif, on pourrait parler de l'intention de contentement. Est-ce qu'on peut se contenter? Mais de nos jours, ça va à bonne presse. Se contenter de choses... Non, mais il faut aller vers quelque chose de plus. C'est intéressant, cette notion de contentement qui est vue un peu... pas d'un bon œil. Et mais même au temps du Bouddha, c'est ça que je trouve tellement intéressant. Même au temps du Bouddha, même avec ses moines et ses nonnes, il devait déjà leur parler de contentement. Et donc il y a un très beau texte qui est par rapport à qui est-ce qui va pouvoir devenir un vrai disciple du Bouddha. De quoi va-t-on avoir besoin? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment, vraiment être un vrai disciple du Bouddha? Et il dit, se contenter de la nourriture qu'on nous donne. Et après, il y a tout ce paragraphe où il dit, les moines ne devraient pas vouloir un peu plus de cette nourriture ou faire un petit peu de chicanerie par rapport à ça ou vouloir plus de ça. Alors déjà, les moines, ils ne se contentaient pas de ce que l'on donnait. Hein. Ils préféraient que c'était soit un peu plus sucré ou un peu plus comme ci ou un peu plus comme ça. Ils leur disaient, pouvez-vous vous contenter de votre nourriture? Deuxième élément, pouvez-vous vous contenter de vos habits? Et de nouveau, il y a le petit paragraphe qu'il y en a qui veulent plus, un tissu plus doux, ou un tissu plus coloré, ou un tissu plus ci, ou un tissu plus ça. Est-ce qu'ils peuvent se contenter d'un tissu qui les couvre? Mais celui que j'ai préféré, c'est le troisième élément. Est-ce qu'ils peuvent être contents avec leur habitation? En ces temps-là, ce n'était pas des habitations super de luxe, hein? Mais paraît-il qu'il se faisait des chinoiseries pour les fenêtres. Alors, s'il y avait plusieurs fenêtres, ou s'il y avait des rideaux aux fenêtres, ou enfin, il y avait l'air d'avoir pas mal d'histoires. Celui qui aura le plus de petites fenêtres, ou celui qui aura les meilleurs rideaux pour sa fenêtre, et tout ça, il voulait qu'il leur disait, est-ce que vous pouvez vous contenter de votre habitation? Et la quatrième chose, bien sûr, c'est de pratiquer le sentier obtus. Mais c'est intéressant, même des moines en ce temps-là qui n'avaient pas grand-chose, mais qui voulaient plus. Et c'est intéressant, cette intention juste, bienveillante. Est-ce que je peux ne pas vouloir plus d'une façon éclairée? Parce qu'on pourrait ne plus vouloir plus d'une façon un peu pas sympathique, hein, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire? De ne pas me contenter de ci, de ne pas me contenter de ça. Ah, mais moi, je vois avec les impléments de... J'aime bien faire la cuisine. Ah, vous devriez voir le nombre de râpes que j'ai. Les gens sont toujours surpris. Et je m'arrête, j'essaie de ne pas en acheter plus. J'en ai au moins 5 différentes. Et, enfin, je pourrais en avoir moins. Je pourrais en avoir plus. Et donc, on veut toujours un peu plus celle qui fera ci, celle qui fera ça. Puis il y a celle-là, ouh, puis celle-là, ouh. En tricolore et tout ça. Puis Steven qui nous m'a ramené une du qu'on n'utilise jamais d'ailleurs, du musée, d'un grand musée à New York. Ah ben, étonnante, mais elle ne sert pas à grand chose, mais elle est étonnante. Donc on en a même une qui ne sert à rien. Mais c'est intéressant de vouloir plus. Est-ce que je peux m'en contenter? de ça. Elle fait le boulot. Mais celle-là, celle-là. Ça, c'est intéressant. Et dans un sens, qu'est-ce que le Bouddha dit avec cette intention? Pourquoi il y aurait un intérêt? Pourquoi serait-il bienveillant de ne pas en vouloir plus? Parce qu'on ne serait peut-être pas dans un mouvement constant vers quelque chose. Et peut-être qu'on pourrait aussi faire plus, une pause. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas fonctionner, utiliser les choses. Mais on serait peut-être plus à même de, je pense, quand il parle de contentement, je pense qu'il parle d'être dans un calme bienveillant. Où en fait, on peut être satisfait de peu de choses, mais de choses qui sont importantes pour notre survie. Après, il y a aussi l'intention qui est non malveillante. On peut aussi parler d'intention généreuse. C'est intéressant quand des choses se passent, et ça souvent c'est par rapport aux autres, mais ça pourrait être aussi par rapport à soi-même. Comment on peut regarder par comment je me traite moi-même? Est-ce qu'on se traite avec bienveillance? Ou est-ce qu'on se traite avec malveillance? Ce qui est encore pire, je dirais. Et comment traite-t-on les autres? Et est-ce qu'on a un peu cette méfiance envers les autres? Ou est-ce qu'on a un regard généreux envers soi-même et un regard généreux envers les autres? Et je dirais qu'avoir un regard généreux, c'est donner un peu le bénéfice du doute à la personne. De ne pas immédiatement penser dans un sens, je fais toujours des erreurs, ils vont toujours faire des erreurs, ils sont toujours comme ça. Je suis toujours comme ça. Est-ce qu'on peut un peu se donner le bénéfice du doute et avoir cet esprit généreux? Donc avoir un peu une intention générale de générosité. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire attention et qu'on ne va pas aller dans des cul-de-sac la nuit où on sait que c'est mal famé. Donc, il y a quand même une certaine sagesse. Mais est-ce qu'il peut y avoir cette intention généreuse qui ne va pas immédiatement penser du mal de soi-même ou du mal des autres? Donc c'est un peu, dans cette intention, c'est un peu dans quel sens on va s'orienter. Je pense quand il parle de cette intention bienveillante, c'est par rapport à de quel côté on va partir. Est-ce qu'on va plus facilement partir du côté malveillant ou est-ce qu'on va plus facilement partir du côté généreux? Et des fois, je trouve qu'on est un peu au croisement de ça. On se sent un peu, on pourrait voir les choses d'un mauvais côté. Et puis, est-ce qu'elles sont nécessairement comme ça? Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui font des mauvaises choses et qui ne vont pas faire quelque chose à propos de ça, mais est-ce qu'on va immédiatement partir comme ça ou est-ce qu'on va avoir un petit peu un regard qui va être plus éclairé, plus ouvert, de nouveau plus explorateur et de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment ça qui se passe? Et donc, si c'est ça, qu'est-ce que je dois faire pour me protéger, pour protéger les gens? Ou est-ce que je comprends bien ce qui se passe? Parce que des fois, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et je pense que c'est pour ça que c'est aussi traduit par pensée bienveillante. Comment perçoit-on? Et des fois, c'est intéressant parce qu'on se dit, la personne est en train de faire ça, et elle va faire ça. Et puis la personne ne fait pas du tout ça. Et on se dit, ah bon? Et donc, c'est comme... Moi, j'aime bien ces moments où on est vraiment... dans un sens, notre perception est questionnée. Parce qu'on voit quelque chose et on se dit, ce que je vois est totalement vrai. La plupart du temps, oui, c'est relativement vrai. Mais c'est intéressant quand on voit quelque chose, on l'interprète d'une certaine manière, souvent ça peut être malveillante, Puis tout à coup, on se rend compte que c'est pas ça du tout. En fait, que c'était autre chose. Et donc, cet esprit de générosité, c'est un peu pour nous inciter, pour nous donner plus une orientation. Est-ce que je peux avoir un regard généreux envers moi-même, envers les autres? Et je dirais, ça s'applique aussi à la méditation. Que des fois, on est dans une certaine attente par la méditation, de nous-mêmes dans la méditation, de telle sorte qu'on va en fait être un peu malveillant. Pourquoi j'y arrive pas et pourquoi c'est comme ci et ça devrait être comme ça. Et de nouveau avoir un peu un regard plus généreux par rapport aux conditions. Des fois, on peut être, comme on disait ce matin, on a plus d'énergie, la méditation sera plus alerte, sera plus claire. Des fois, on sera un peu fatigué, il n'y aura pas grand-chose. Mais le fait qu'on est fatigué et qu'il n'y a pas grand-chose ne veut pas dire que la fois d'après, ça ne sera pas mieux. Donc, et là, on peut faire de nouveau le lien avec l'idée d'impermanence. Et la troisième intention, le troisième aspect, c'était d'être inoffensif, dans le sens, on pourrait presque dire d'être non agressif, agressive. Et on pourrait se dire, en général, je ne veux pas de mal aux autres, et en général, on n'est pas agressif, et en général, on est relativement inoffensif. Mais ça devient intéressant dans quand est-ce que l'on est. Alors généralement à notre niveau, je présume que on va pas aller au coin de la rue avec un couteau essayer d'attaquer les gens. Et donc à notre niveau, ça sera ce dont je vais parler un peu plus demain, la parole juste. Mais même au niveau de la pensée. Moi, je trouve que c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on pense? Comment on pense? Et de temps en temps, est-ce qu'on passe son temps à comploter de la vengeance? Ou est-ce que des fois, on se demande, mais ah là là, si on pouvait les avoir? Ou si j'aurais su, ou si je pouvais, je ferais ça. Alors ça, on peut le faire en pensée. Généralement, c'est pas trop méchant parce que ça, généralement, ça fait pas de mal à personne, mais le plus on le pense, le plus on peut aussi le faire. Des fois, ça peut un peu découler de l'autre. Mais aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui fait que soudainement je dis une parole qui est méchante. Où je parle avec un ton qui est méchant, où je fais une action qui est méchante, où j'ai un geste qui est agressif. Et alors là, dans un sens, si on a cette intention de ne pas l'être, ça ne veut pas dire qu'on ne le sera jamais, parce que ce n'est pas comme ça, il y a des tas de conditions et c'est impermanent. Mais de vraiment voir qu'est-ce qui fait que je vais avoir une pensée qui va être agressive, ou je vais avoir un acte où je vais dire quelque chose d'agressif. Et généralement, ça va nous amener un petit peu à la pleine conscience de la tonalité du ressenti, qui est de, quand on ressent quelque chose qui est douloureux ou qui est déplaisant, et généralement, on va dire quelque chose. Soit pour attaquer l'autre, soit pour le faire partager, je me sens mal, ben tu vas te sentir mal toi aussi, ou je me sens mal à cause de toi, donc tu dois te sentir mal aussi, ou enfin il y a des tas de choses qui peuvent apparaître. Et donc c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe quand il y a cette secousse, je dirais, agressive, surtout quand on l'est généralement pas. Ou est-ce qu'on a une tendance avec certaines personnes à plus à l'être plus qu'à d'autres? Et là, qu'est-ce qu'on est en train de considérer? Quelqu'un me disait que à son bureau, il y a quelqu'un qui elle aimerait être un petit peu dans les bons papiers, donc elle, même s'il fait des choses pas très sympas, elle est très sympa avec lui. Mais peut-être que d'autres personnes, elle n'est pas aussi sympa, mais parce qu'il ne l'embête pas. Et elle est plus neutre. Ça, c'est intéressant. Elle est plus sympa avec le gars qui n'est pas sympa. Elle est neutre avec les gens qui sont sympas. Et puis, on se demande comment elle est avec les autres. Et donc, qu'est-ce qui fait que on sera plus ou moins inoffensif selon les conditions à notre avantage, pas à notre avantage? Qu'est-ce qui va jouer? Qu'est-ce qui joue là? Et donc, la vision juste va nous aider à regarder les conditions du fait que des fois, oui, on est dans cette intention de simplicité, de contentement, de bienveillance, d'être généreux, et d'autres moments, non. Et donc, la pleine conscience va nous aider à considérer tout ça, essayer d'avoir cette réponse créative, éclairée, à ce qui se passe. Et donc, de voir un peu, la complexité. Donc, bien que sur le fait qu'on a l'intention, ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient de la complexité. Et comment les choses vont jouer par rapport aux intentions qu'on a et ce que l'on fait, ou ce que l'on dit, ou comment on acte, et qui sera ce dont je parlerai demain. Donc on va se mettre debout maintenant. On va se mettre debout et on va faire six. Enfin, les gens qui peuvent être debout 5 minutes. Hein. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas être debout 5 minutes, soit vous restez assis sur votre chaise, ou soit vous vous tenez à la chaise. Et on va faire un petit balayage du corps, juste pour se mettre en jambes pour la méditation. Donc on est debout, on garde les yeux ouverts devant soi, et puis on met son attention sur les pieds, et qui touchent le sol, et on est conscient d'une façon bienveillante, sur le bas des jambes, montons notre attention, nous pouvons ressentir le contact, alors, si les sensations vont marquer le contact, d'être conscient du corps en entier, puis maintenant on va trouver une position confortable. Je suis en train de changer le programme, désolé. On commence par une courte méditation, puis après on ira marcher. Donc nous pourrions peut-être être conscients des sons, avoir cette pleine conscience bienveillante de la musique de la vie. Nous pouvons soit nous ancrer d'une façon très ouverte dans l'espace dans lequel les sons apparaissent, ou nous pouvons nous ancrer dans les sons qui apparaissent. Nous sommes conscients que les sons apparaissent et disparaissent. Et s'il y a un son qui continue, nous écoutons avec attention. Nous sommes un peu perdus dans les... Nous pouvons toujours revenir au souffle. Donc maintenant, il y a 30 minutes de méditation marchée. Alors, j'ai interverti les assises et les marches. J'espère que ça ne créera pas de confusion. Donc, on va se retrouver ici à 4h moins le quart. Et pendant la méditation marchée, est-ce que vous pourriez pratiquer la vision juste et l'intention bienveillante? Et donc, premièrement, d'étendre le champ de la pleine conscience au son et à ce que vous voyez, et de remarquer le changement. Alors vous pouvez d'abord remarquer le changement de la matière, on pourrait dire, dans le sens que vous remarquez le changement, les sons vont et viennent, ou les sons changent en eux-mêmes. Ce que vous voyez ne va pas trop changer peut-être, mais peut-être changer avec la lumière et tout ça. Mais vous pouvez aussi remarquer, mais sans que ça soit compliqué, le changement des perceptions aussi. Je peux voir ça comme si, je peux voir ça comme ça. Ah, je l'ai vu comme si, je l'ai vu comme ça. Juste vraiment légèrement. On ne part pas dans une thèse scientifique, mais juste d'être au qu'est-ce qui se passe autour de moi. Et puis après, on pourrait aussi peut-être remarquer un petit peu. J'essaie d'être conscient, j'essaie d'être présent au son, à ce que je vois. Et je vais, il y a beaucoup de chances, avoir des pensées qui vont m'entraîner ici et là. Et peut-être ici d'apporter un peu cette notion d'intention bienveillante, pensée bienveillante. Est-ce que ces pensées sont empreintes de contentement, de générosité, de douceur, ou est-ce qu'il y a un peu de convoitise, est-ce qu'il y a un peu de malveillance, est-ce qu'il y a un peu d'agressivité, juste de remarquer que ça soit envers moi-même ou envers les autres. Et donc nous revenons ici à Moelka.